Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, au fil des pages, avec un invité de marque issu du monde scientifique qui nous fait l'honneur de sa présence, Jean Stone, pour un ouvrage intitulé « Notre existence a-t-elle un sens ? Une enquête scientifique et philosophique aux presses de la Renaissance ». Jean Stone, bonjour.
Bonjour.
Vous avez un lien avec l'Institut, lien que l'on peut d'ailleurs rappeler puisque vous étiez le rapporteur d'un travail mené par un groupe de recherche sur la direction de Bernard d'Espagna, un travail intitulé « Implication philosophique de la science contemporaine ». Je rappelle en deux mots pour vous situer que vous avez, si je puis dire, un profil extrêmement polyvalent.
Oui.
Vous êtes diplômé en paléontologie, en mathématiques, en informatique, en gestion, en sciences politiques et économiques. Vous enseignez la philosophie des sciences dans le MBA du groupe HEC.
Oui.
Et vous êtes secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris, de laquelle d'ailleurs on peut dire peut-être un mot.
Oui, en fait, c'est une université populaire, je dirais classique, comme les universités populaires qui font des cours du soir, qui est donc organisée autour de différents thèmes, qui sont des thèmes que je reprends dans mon ouvrage, c'est-à-dire justement les questions de l'origine de l'univers, de l'évolution de la vie sur Terre, bref, je dirais les grandes questions scientifiques qui ont des implications philosophiques.
Et vous aviez déjà précédemment publié aux presses de la Renaissance également « Science et quête de sens » qui avait rassemblé une quinzaine d'auteurs, dont 4 prix Nobel, je crois.
Oui, alors cet ouvrage est justement issu des travaux de l'Université interdisciplinaire de Paris, c'est-à-dire que nous avons eu l'occasion de regrouper dans de grands colloques internationaux au fil de nos 12 années d'existence des dizaines de personnalités scientifiques et nous commençons tout juste, si j'ose dire, à publier tout ce que nous avons comme justement communication et intervention de ces différentes personnalités scientifiques, dont l'ouvrage donc « Science et quête de sens » est le premier.
Notre existence est-elle un sens, donc ? Il faut savoir quand même que cet ouvrage a représenté pour vous la lecture, je crois, d'environ 1000 livres.
Oui, et aussi beaucoup de rencontres, parce que je faisais allusion à mon travail dans le cadre de l'Université interdisciplinaire de Paris, qui m'a permis d'organiser une douzaine de grandes conférences internationales à Paris, mais aussi de participer à des colloques dans le monde entier. Et donc, c'est un travail issu, je dirais, je suis un observateur, vous avez fait allusion aussi à ma participation à ce groupe de recherche ici à l'Institut sur la philosophie des sciences. Donc, je suis un observateur et oserais-je dire modestement à mon petit niveau à moi, un acteur de l'évolution des idées dans le domaine des sciences. Et donc, je pense que je suis un témoin un petit peu privilégié quand même par la chance que j'ai eue au cours des 10 dernières années, ou même plus de 10 ans, de rencontrer autant de personnalités et de lire évidemment les livres de ces personnes et de bien d'autres, pour pouvoir présenter au public français ce travail de synthèse.
Un travail de synthèse avec une ambition, c'est faire le point sur notre connaissance scientifique, notre appréhension du monde, avec cette question qui est légèrement provocatrice quand même, notre existence a-t-elle un sens ? On a envie de répondre oui, bien sûr.
Oui, là, attention, c'est pas notre vie a-t-elle un sens, parce que si on dit notre vie a-t-elle un sens, on va bien sûr répondre oui, le sens de ma vie, c'est l'amour de ma femme, de mes enfants, de mon travail, on a tous un sens à la vie. Mais notre existence, j'ai changé le titre, au début c'était notre vie a-t-elle un sens, et je l'ai changé exprès en notre existence a-t-elle un sens, ça veut dire quelque chose de différent, le fait que nous existions ici sur Terre, qu'il y ait des êtres vivants pourvus de conscience, dans un monde où il y a de la vie biologique, dans un univers qui a des caractéristiques qui sont celles que l'on lui connaît, est-ce que ça a un sens ou pas du tout ? Est-ce que c'est quelque chose qui est signifiant ou est-ce que c'est juste un processus sans signification ? Voilà le cœur même de la question que je veux poser à travers cet ouvrage.
Sommes-nous le résultat du hasard et de la nécessité ?
Oui, c'est-à-dire, effectivement, c'est quand je dis « nous », c'est étendu non seulement à l'être humain, mais comme je viens de le dire, aux êtres vivants éventuels qui peuvent exister sur d'autres planètes, et à l'existence même de l'univers et de ses lois.
Est-ce qu'on est dans le domaine vraiment scientifique ou à proprement parler dans l'interprétation des sciences, avec une telle question ?
Oui, tout à fait. Je pense que nous sommes tout à fait dans le domaine de l'interprétation de la science. Mais attention, je le dis dans mon ouvrage, au niveau philosophique, il y a deux niveaux. Il y a de l'interprétation de la science dans la science et il y a de la philosophie des sciences qui vient, je dirais, en complément de la science. Je donne un exemple concret. Si vous faites une expérience, par exemple, de non-séparabilité en mécanique quantique, domaine passionnant dont on reparlera, vous ne pouvez pas vous contenter de dire « il y a eu un clic dans un détecteur et j'ai enregistré un clic dans un autre détecteur ». Vous devez interpréter. voyez-vous. Vous devez interpréter, et quand vous interprétez, il y a différentes interprétations, mais la quasi-totalité de ces interprétations, peut-être même la totalité, c'est un point en discussion, vous oblige, par exemple, de l'intérieur de la science, à renoncer à l'idée que la totalité du réel est localisée dans le temps et dans l'espace, parce qu'il y a un phénomène qui échappe au temps et à l'espace. Et ça, c'est de l'interprétation de la science, mais c'est dans la science. Après, vous pouvez sortir de la science et dire, donc l'existence de la non-localité montre que le monde est holiste et non réductionniste, enfin vous pouvez interpréter au plan philosophique. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que la science ne peut pas se départir d'une interprétation à l'intérieur même du domaine scientifique et que cette interprétation peut déjà aller très loin et être très spectaculaire et avoir des conséquences philosophiques que développe ensuite la philosophie des sciences.
Autrement dit, vous récusez l'idée selon laquelle la science ne dit rien en soi.
Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Je récuse totalement cette idée. Parce que je pense que la science peut dire beaucoup de choses. Par exemple, je discutais récemment avec André Comte-Sponville qui me disait que la science ne récuse pas la philosophie. Et bien sûr, les grands systèmes philosophiques sont intemporels. Platon ou Aristote sont toujours valables aujourd'hui. Mais quand même, on est obligé de reconnaître que la vision d'un monde au-delà de la Lune d'Aristote qui serait immuable, intangible et qui ne bougerait jamais, qui est quand même important, même si ce n'est pas la base ultime de son système philosophique, d'un univers qui serait éternel, bah, toutes ces idées-là sont quand même explosées par les découvertes scientifiques. Donc on ne peut pas faire une barrière étanche, en quelque sorte. On ne peut pas prétendre que la philosophie est totalement à l'abri, en quelque sorte, des évolutions scientifiques.
Jean Stone, il existe des modes en matière scientifique.
Tout à fait, bien sûr, oui.
Dans quel type de mode sommes-nous aujourd'hui? Puisque votre ouvrage, c'est le sentiment, en tout cas, qu'il m'a donné, part du principe que le XXe siècle a fait évoluer la science considérablement, mais dans un sens qui est peut-être méconnu, celui que les idées déterministes ont été en quelque sorte bouleversées, remises en cause.
Oui, essentiellement et pas uniquement.
Il n'y a pas un continuum entre le 19e et le 20e.
Oui. Ah, évidemment, il y a une rupture et toute la discussion. Alors là, on est dans l'interprétation philosophique de la science. Hein. Tout est dans la discussion de l'interprétation au plan philosophique de cette rupture. Il y a plusieurs types de ruptures. Mais l'essentiel est celui que vous mentionnez, que je résumerai par une phrase qui est souvent mal comprise, y compris des philosophes. Aujourd'hui, on sait très bien pourquoi on ne saura jamais certaines choses. Par exemple, on sait très bien pourquoi on ne saura jamais la position et la vitesse d'une particule au même moment, à cause du principe d'incertitude de Heisenberg. On sait très bien pourquoi aucun système logique ne sera à la fois complet et cohérent, théorème de Gödel. On sait très bien pourquoi on ne pourra jamais prédire la météo à 3 semaines, l'effet papillon. Donc vous voyez, c'est très différent de dire « Ah, ça c'est un mystère », parce qu'il y a toujours du mystère. C'est très différent de dire « Ah oui, c'est un mystère, alors ça on ne sait pas, donc c'est très mystérieux, donc on peut en tirer des conclusions philosophiques, voire métaphysiques ou théologiques. » Non, là la démarche que je propose, et c'est pas moi d'ailleurs, c'est une démarche qui existe depuis des décennies, est tout à fait différente. C'est une démarche qui consiste à dire « On sait très bien pourquoi on ne saura jamais certaines choses ». Et c'est un bouleversement épistémologique gigantesque, parce que comme j'insiste dans mon ouvrage sur Jean Fourastier, qui a été un des membres éminents de cet institut, et secrétaire perpétuel d'ailleurs de l'Académie des sciences morales et politiques, eh bien, Fourastier disait que la science moderne était habitée par non seulement l'espoir, mais la certitude d'expliquer par le réel, la totalité du réel. Et par réel, il entendait le monde dans lequel nous vivons, un monde de temps, d'espace, d'énergie et de matière. Et c'est justement cette certitude d'expliquer tout le réel par le réel que fait exploser, entre autres, mais pas uniquement, la mécanique quantique et selon moi également l'astrophysique, voire même le théorème de Gödel ou d'autres. Donc si vous voulez, là, on est face à quelque chose de très 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 intéressant. On est face à un bouleversement épistémologique qui va bien au-delà d'une mode, mais il faut parler ici avec Thomas Kuhn d'un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'encore une fois, la science classique voulait expliquer tout le réel par le réel. Et bien maintenant, on voit que ce projet, dont Bernard d'Espagne a dit qu'il paraissait très respectable, très cohérent, très évident, et bien ce projet n'est plus possible.
Et il a atteint ses propres limites.
Voilà, il a démontré ses propres limites. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dont la philosophie et même un certain nombre de scientifiques d'aujourd'hui sont loin d'avoir pris conscience.
Mais est-ce que la mode dont je parlais à l'instant, est-ce que la mode n'est pas aussi dans l'idée que l'homme doit trouver un sens inévitablement à sa vie, qu'avant c'était davantage des idéologies beaucoup plus déterministes, scientistes qui animaient la pensée?
Alors, effectivement, il y a un recul du scientisme et je pense, alors certains peuvent dire c'est une mode, c'est bon, moi je pense que tout se tient. Je pense qu'effectivement, même si cette phrase peut sembler ridicule, je le conçois et je le dis à titre de provocation parfois un petit peu, mais elle a quand même été dite par Sir Arthur Eddington, un des plus grands scientifiques du début du XXe siècle et un des plus grands spécialistes de la relativité après Einstein. Il a dit « Depuis 1927, un homme intelligent peut de nouveau croire en l'existence de Dieu ». Depuis 1927, un homme intelligent peut de nouveau croire en l'existence de Dieu. Pourquoi ? Parce que 1927 est l'année de la synthèse de la mécanique quantique. Non pas que la mécanique quantique démontre quoi que ce soit sur l'existence de Dieu, je le dis avec force dans mon livre, mais la mécanique quantique nous dit deux choses extraordinaires. Elle nous dit, premièrement, il y a un autre niveau de réalité, enfin, je résume ça de façon un peu brutale, mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand je dis qu'il y a quelque chose qui est au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie et de la matière. Et je pourrais vous donner des dizaines de citations de grands scientifiques, dont Banach Hoffman, qui fait naître Einstein, qui dit « Tout ce que nous savons des particules élémentaires eh bien, implique que les processus fondamentaux qui les composent ne sont pas dans l'espace et dans le temps. » Donc, vous voyez, ce n'est pas dans l'espace-temps. Bon. Donc, première idée que donne la mécanique quantique. Et deuxième idée, à partir du moment où la mécanique quantique montre qu'il y a une incertitude fondamentale, justement, et pas un déterminisme, dans les processus même de la nature, l'idée qu'il pourrait y avoir des interventions extérieures du système dans le système sans violer les lois du système, cette idée devient non a priori absurde. Bien sûr, elle n'est pas prouvée, mais non a priori absurde. Et je pense que c'est ça que Eddington disait quand il disait que de cette fameuse phrase sur 1927. Donc, si vous voulez, il y a des implications de type métaphysique, voire théologique, et que ces implications se diffusant, elles peuvent contribuer à changer les mentalités des scientifiques. Et à mon avis, aussi bien en mathématiques qu'en astrophysique ou en physique, il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de scientistes aujourd'hui qu'il y a 50 ans ou un siècle. Par contre, ce n'est pas le cas en neurosciences et en sciences de l'évolution, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure.
C'est-à-dire que vous avez réconcilié en quelque sorte la science et la religion, d'une certaine façon, ou la spiritualité.
C'est pas moi qui l'ai réconcilié, évidemment, mais ce sont des propos, par exemple, comme ceux que tient quelqu'un comme Albert Einstein, donc on peut quand même lui faire confiance là-dessus. Albert Einstein dit justement, et il insiste, que la science, en quelque sorte, a besoin d'une certaine forme de... La recherche scientifique a besoin d'une certaine forme de religiosité cosmique, et il définit la religiosité cosmique comme étant la capacité pour le savant de s'émerveiller devant une intelligence si supérieure, je souligne moi, une intelligence si supérieure qui se manifeste dans les lois de l'univers. Et on dit souvent, beaucoup de scientifiques, parfois un peu scientistes ou athées, veulent tirer Einstein à eux en disant « quand Einstein parle de Dieu, c'est une façon de penser ». Effectivement, Einstein ne croyait absolument pas à un Dieu monothéiste, le Dieu de judéo-chrétien, il l'a dit et écrit. Par contre, ce n'est pas du tout simplement une énergie universelle ou à Spinoza, bien qu'Einstein était proche de Spinoza, parce qu'il parle absolument clairement d'intelligence si supérieure dans les lois de l'univers. Ce qui, évidemment, fait référence, une intelligence, à quelque chose, à un être, à une personne, peu importe, mais à quelque chose. Voyez-vous ?
Le fait de qualifier justement cette intelligence, comme vous venez de le faire, d'être, d'intelligence supérieure, le fait que la mécanique quantique dise que certaines choses seront de toute façon inaccessibles, c'est une façon de dire que les voies de cet être sont impénétrables.
Tout à fait, mais il y a deux choses différentes, il ne faut pas confondre. La mécanique quantique nous donne, je l'ai dit, essentiellement deux grandes choses. L'idée d'une incertitude irrémédiable dans les processus de la nature, qui est le principe d'incertitude de Heisenberg. Et l'idée d'un autre niveau de réalité, de quelque chose qui est non local, et c'est reconnu même par des gens qui ont participé justement à notre groupe de recherche ici à l'Académie des sciences morales et politiques. Par exemple, il y avait Jean Bricmont, et Jean Bricmont se trouve être un des physiciens les plus matérialistes et les plus militants du matérialisme et de l'athéisme. C'est quelqu'un qui a écrit justement sur la totale incompatibilité entre science et religion. Et voilà que Jean Bricmont, quand il veut décrire, et de façon très honnête, je tiens à le préciser, cette fameuse non-localité, il la compare à l'action d'un magicien. Certes, il dit bien qu'il s'agit d'une analogie, mais il la compare à l'action d'un magicien capable d'agir à distance sur une personne en manipulant son effigie, quelle que soit la distance qui les sépare. Et il dit, à juste titre, qu'on ne peut pas transmettre d'informations, ça c'est un point technique, je pourrais vous expliquer en utilisant cette mystérieuse non-localité, mais il dit les autres aspects sont là, et ils sont déconcertants, instantanéité, non-décroissance avec la distance, individualité, Et il n'hésite pas à parler donc de cette force qui ne décroît pas avec la distance, contrairement à toutes les forces connues en physique, qui se propagent plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est, comme vous savez, impossible dans notre univers, dans notre niveau de réalité. Et pourtant, ça se propage plus vite que la vitesse de la lumière. Il parle des propriétés magiques de la non-localité. Donc, quand vous voyez... Que
alors, à quel phénomène précis
c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle effectivement pour, le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, excusez-moi de ne pas avoir précisé plus tôt, c'est cette situation dans laquelle, on appelle ça une intrication entre deux particules, n'importe quelles particules élémentaires peuvent faire ce phénomène. On les met dans un état, si vous voulez, où ces particules sont jumelles, elles sont extraites de la couche externe d'un même atome, et elles s'en vont dans deux directions opposées. Et on va faire des tests sur ces particules, un peu comme sur des jumeaux, si vous voulez. La particule de droite va subir un test, et on va montrer que ce test va influencer l'état de la particule de gauche. Alors, on a un moyen subtil et indirect, c'est par des tests qu'on appelle les inégalités de Bell, de montrer que quand on agit sur une particule, ça a bien un impact sur l'autre. Je le précise en détail dans mon livre, évidemment, je ne peux pas l'expliquer en détail, mais c'est bien précisé et il y a deux interprétations chez les grands scientifiques. Soit vous êtes obligé de dire qu'il y a quelque chose qui est allé d'une particule à l'autre plus vite que la vitesse de la lumière, et dans ce cas-là, ça ne peut pas être une particule, ça ne peut pas être de l'énergie, parce que tout ce qui est énergie ne va pas plus vite que la vitesse de la lumière, et ça, on a des preuves absolues pour le montrer, c'est la structure même de l'espace et du temps qui s'y oppose. Voyez-vous ? Donc, soit il y a quelque chose qui passe par un autre niveau de réalité, comme par un trou de ver, une espèce de connexion non locale. C'était l'avis de grands scientifiques comme John Bell, par exemple, qui est l'auteur de ces inégalités de Bell. Soit l'interprétation la plus courante, c'est celle qui consiste à dire il y a un seul objet, un seul et unique objet, et ça n'a pas de sens de parler d'une séparation entre les deux objets, donc on appelle ce phénomène la non-séparabilité. Mais un détecteur peut être à Paris et l'autre, en théorie, peut être à Versailles, où on a aujourd'hui fait cette expérience sur 10 km. Et demain, on pourra la faire sans doute entre Paris et New York. Ce qui veut dire que vous seriez obligé de dire qu'il n'y a pas de distance entre Paris et New York. Ce qui serait absurde. Donc vous êtes obligé de dire, à un certain niveau de description de la réalité, eh ben, il n'y a pas de distance entre Paris et New York. À notre niveau, à nous, dans le monde
donc
de temps,
donc la frontière
d'espace,
de l'espace et du temps,
voilà, est dépassée. Donc, quelle que soit l'interprétation que vous pouvez avoir, et je vous ai donné les deux grandes interprétations qui circulent de cette fameuse expérience, Bricmont serait dans la première, parce qu'il parle effectivement d'influence de propagation superlumineuse, comme John Bell, mais dans tous les cas, vous êtes obligé d'admettre qu'il y a quelque chose d'autre. Et ça implique directement que le monde où nous vivons ne s'explique pas uniquement à partir de lui-même, qu'il y a une faille en quelque sorte, voyez-vous. Et c'est pas quelque chose du genre...
Ça, c'est une constante de la philosophie quand même.
Bah, oui et non, parce que c'est une constante de la philosophie, certes, mais certainement pas de la science, puisque justement la science avait pour but d'expliquer, encore une fois, le réel
par lui-même.
Et Bernard d'Espagna, qui était un des grands inspirateurs de cette nouvelle physique et cette nouvelle interprétation de la physique, Bernard d'Espagna dit que le réalisme d'un physicien ne peut pas être au moins un peu platonicien. Et on revient, comme vous mentionnez, à l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire au platonisme, dans l'idée que le mythe de la caverne, ce qui est vraiment important, ce qui est essentiel, est à l'extérieur du système, voyez-vous. Et nous ne voyons que des projections. Et d'une certaine façon, le message de la mécanique quantique, pour différentes raisons, mais entre autres et principalement à cause de l'expérience de non-séparabilité entre ces deux particules issues d'un même atome et qui restent reliées ou qui forment un seul et unique objet, même si elles sont en théorie à deux bouts de l'univers,
revient à la logique platonicienne.
Revient à l'idée de dire donc il y a quelque chose d'autre au-delà du temps et de l'espace, donc notre monde n'est pas localisé uniquement dans le temps et dans l'espace, et c'est une révolution conceptuelle gigantesque au niveau justement de l'interprétation, cette fois-ci philosophique, de la science.
Jean Stone, à tout de suite.
Retrouvez sur Canal Académie nos émissions en compagnie des académiciens professeurs au Collège de France. Le paléontologue Yves Coppens, la juriste Mireille Delmas-Marty, l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie ou encore l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Quelques noms d'une longue liste dont vous pouvez télécharger librement les émissions sur canalacademie.com.
Au fil des pages, avec Jean Stone, notre existence a-t-elle un sens aux presses de la Renaissance ? Une enquête scientifique et philosophique qui fait le point sur notre état de connaissance de la science et qui en même temps parle de cette révolution conceptuelle, le fait que Comme vous le disiez à l'instant, Jean Stone, il y a des frontières qui ont été dépassées, celles de l'espace et du temps. On ne sait pas, mais on sait qu'il existe une intelligence, un être, vous avez employé ces deux termes, que l'on peut qualifier, alors peut-être certains diront dans le domaine religieux, de dieu, d'horloger, de magicien. Ce sont des termes qui sont aujourd'hui en point d'interrogation, mais en tout cas, une chose est sûre et sur laquelle vous revenez, le réel ne s'explique pas par lui-même, il s'explique par autre chose. Je reviens sur les questions que vous abordez dans cet ouvrage, la question la plus importante qui soit, bien sûr, vous commencez par là, et je ne dirai pas laquelle. Vous partez du désenchantement du monde, vous posez la question « qu'est-ce que le réel ?» puis « d'où venons-nous ? Où allons-nous ? » Éternelle question. « Sommes-nous ici par hasard ?» Bien sûr, « qui sommes-nous ?» Avec plusieurs parties qui orientent votre réflexion, la matière, l'univers, la vie et la conscience. C'est ainsi que vous avez voulu mettre les choses en forme.
Nous avons parlé de la mécanique quantique et comme je dis, on arrive au moins à cette conclusion minimale qu'à la fois il y a une incertitude fondamentale à notre niveau de réalité, le principe d'incertitude, et à la fois que notre niveau de réalité dépend au moins en partie d'un autre niveau de réalité à cause d'expériences comme celle de la non-localité ou non-séparabilité qui montre que des choses transcendent le temps et l'espace. Mais vous avez mentionné ce que j'ai dit plus tôt, quand je parlais effectivement d'un être ou d'une intelligence, je faisais référence à cette phrase d'Einstein, donc je ne prétends pas du tout que la science démontre cela, car effectivement un certain nombre de scientifiques tout à fait matérialistes sont tout à fait prêts à défendre le contraire. Mais je citais donc cette phrase d'Einstein parlant de que l'esprit scientifique, d'après Einstein encore une fois, n'existe pas sans la religiosité cosmique, et que la religiosité du savant, cette religiosité cosmique, je cite Einstein, consiste à s'étonner, à s'extasier devant l'harmonie des lois de la nature dévoilant une intelligence si supérieure que toutes les pensées humaines et toute leur ingéniosité ne peuvent révéler face à elles que leur néant dérisoire. Donc là, vous voyez, c'est une autre ligne d'argument, tout à fait différente. C'est une ligne d'argument, d'une certaine façon, je dis ça, c'est pas une plaisanterie, mais pour une caricature un petit peu, Einstein dirait « Dieu existe » ou « l'être existe », puisque pour lui, c'est pas un Dieu au sens motiste, j'ai déjà dit, « parce que je peux comprendre l'univers, parce qu'il y a une bijection entre la structure de ma pensée, moi Einstein, et une pensée bien supérieure à la mienne, mais que je peux quand même comprendre un petit peu sa façon de fonctionner, qui est la pensée qui est derrière la fameuse harmonie des lois de la nature. » Et d'un autre côté, d'Espagna dirait, et les gens qui sont dans cette école de pensée, l'être existe, l'Espagnol ne parlait pas de Dieu non plus, mais il parle de l'être. L'être existe parce qu'il y a une incomplétude radicale, parce que je ne peux pas dévoiler la totalité du réel. Donc ça paraît contradictoire, et en fait, dans mon livre, en plan philosophique, j'essaie de montrer que ça ne l'est pas. J'essaie de montrer qu'on peut tenir à la fois ces deux lignes de pensée. Le monde est suffisamment compréhensible, c'est suffisamment étrange que nous puissions comprendre le monde. C'est ce que disait Einstein. Le plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Nous ne pouvons pas le comprendre en totalité, mais nous pouvons suffisamment le comprendre pour que ça nous pose quand même la question d'un lien entre notre propre structure de conscience et la structure de cet univers, et donc de s'il a été conçu, la structure de celui qui l'a conçu. Et d'un autre côté, eh bien, il y a des choses qui sont radicalement au-delà de l'espace du temps de notre compréhension, qui font signe, là aussi, de la possibilité, je dis bien de la possibilité, et certainement pas de la preuve, il faut être très très prudent, de l'existence de quelque chose qui transcende effectivement notre niveau de réalité.
Essayons, si vous le voulez bien, Jean Stone, en dépit de ce défi périlleux que cela peut représenter, de savoir à quoi correspond cet autre niveau de réalité. Est-ce que cet autre niveau de réalité, c'est un niveau dans lequel la vie se trouve également, dans lequel c'est un niveau dans lequel il existe des sens, une perception ?
Non, ce qu'on peut dire, c'est que justement, ce que D'Espagne a développé, qui s'appelle la philosophie du réel voilé, consiste à dire qu'on pourrait avoir une définition uniquement en négatif de cet autre niveau de réalité, dire il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace, il n'est pas dans l'énergie, il n'est pas dans la matière, il n'est pas ceci, il n'est pas cela.
Pour l'instant, c'est en creux.
Voilà, en creux. On peut l'approcher, à mon avis, et c'est le travail peut-être original que j'ai essayé de faire dans ma conclusion quand je dis les cinq grands mystères. Les cinq grands mystères ne faisaient qu'un. Alors, on n'a pas encore abordé tous ces mystères, on va peut-être les aborder en détail, mais en gros, on a abordé le mystère de la nature de la matière en détail. On a commencé à parler pour l'instant du problème de l'origine de l'univers et de la nature des lois de l'univers, qui est un second mystère. Le troisième mystère, c'est le mystère de la conscience, de la pensée humaine et de la nature de la conscience et de la pensée humaine. Le quatrième mystère, c'est le mystère des mathématiques et du fait qu'un certain nombre de grands mathématiciens prétendent être en contact avec un monde platonicien des mathématiques. voyez-vous. C'est-à-dire qu'ils prétendent que les mathématiques, il y a un débat célèbre entre Jean-Pierre Changeux, neurologue, et Alain Kohn sur ce sujet, dans un ouvrage Matière à penser, où justement, et je cite Kohn, et Kohn qui pourtant se prétend matérialiste, il parle de cette espèce d'illumination qui n'est pas du tout mystique, puisqu'il s'agit de voir des objets mathématiques et pas du tout des apparitions de la Vierge. Eh bien, cette illumination mathématique, quand il en parle en termes quasi mystiques, et il dit que quand ça arrive, les rares fois où c'est arrivé, il a eu les larmes aux yeux. Donc, voyez-vous, ici, là, il y a ce mystère donc, de connexion possible entre l'homme, l'esprit humain et le monde des mathématiques. Et le dernier mystère, c'est bien sûr le mystère de l'évolution de la vie et de est-ce que dans l'évolution de la vie, on a la trace de quelque chose qui, au-delà du hasard et de la nécessité, peut effectivement canaliser cette évolution de la vie. Donc, vous avez ces cinq grands mystères et je pense que ces cinq grands mystères, alors vous me direz, c'est pas forcément un progrès, mais je pense que c'est un progrès de remplacer cinq grands mystères par un grand mystère, que ces cinq grands mystères ne font qu'un, et qu'on peut passer d'un matérialisme scientifique à un platonisme scientifique, et qu'on peut montrer les traces de cet autre niveau de réalité, en fait, dans tous les domaines. Alors, c'est très clair en physique quantique, c'est assez clair en astrophysique, parce que justement, il y a la théorie du Big Bang, donc le temps et l'espace sont bien surgis de quelque chose d'autre, qui n'était pas le temps et l'espace.
Donc la matière et l'univers.
C'est assez clair en mathématiques, à cause de ces témoignages des grands mathématiciens auxquels je faisais référence. C'est moins clair dans les neurosciences et dans les sciences de la vie, mais on en parlera sans doute tout à l'heure. Mais néanmoins, ce qu'on peut dire, cet autre niveau de réalité, c'est qu'il pourrait se manifester sous une forme, j'allais dire, d'archétype platonicien ou de forme platonicienne éternelle, en quelque sorte, au-delà du temps et de l'espace, dont notre monde serait la projection. Et il pourrait, alors bien sûr, ça c'est de la pure philosophie des sciences, c'est de la pure interprétation métaphysique de la philosophie des sciences, c'est plus tout de la science, mais il pourrait être une clé de compréhension dans tous les grands domaines scientifiques et c'est d'une certaine façon, je pense, la conclusion la plus solide vers laquelle tend mon ouvrage au plan philosophique.
Alors il existe un point sur lequel nous allons revenir, celui de l'évolution, de l'évolutionnisme en particulier, savoir quelle est la position que vous adoptez sur le sujet. Mais d'abord, si la science se caractérise par une chose, c'est bien par l'expérience. Or, est-ce qu'on n'atteint pas un domaine dans lequel aucune expérience n'est possible ?
Ça, c'est une très bonne question, mais vous savez, il y a des expériences en creux. Par exemple, justement, vous ne verrez jamais un électron en état ondulatoire, puisque par définition, et quand il est observé, il se réduit à un corpuscule. Donc, vous ne verrez jamais un électron en état ondulatoire. Est-ce que ça veut dire qu'affirmer que l'électron est ondulatoire est une absurdité ou que ce n'est pas scientifique ? Je ne pense pas. Je pense qu'on a des expériences qui montrent indirectement qu'on doit interpréter l'électron, du moins tout se passe comme si, ou la meilleure façon d'interpréter, de dire que l'électron est une onde pure quand on n'observe pas, voyez-vous. Donc, je veux dire par là qu'il y a toute une série de choses qu'on ne peut pas observer directement en science, et pourtant, on peut faire des expériences qui montrent que les choses doivent bien se passer comme ça. Donc, cette espèce de démonstration en creux, ce qu'on appelle en mathématiques la démonstration par l'absurde également, hein. Et bien, la démonstration par l'absurde, c'est quelque chose de très fort, de très, qui a un domaine d'application très vaste et qui, à mon avis, va devoir être appliqué de plus en plus, étant donné les évolutions épistémologiques auxquelles nous sommes confrontés, étant donné ces limites dont je parlais auxquelles nous sommes confrontés.
Toutes les pistes que vous avez tracées dans les domaines aussi divers que la matière, l'univers, la neuroscience, tous ces champs d'application, est-ce que vous pensez que les hommes vont acquérir les moyens un jour d'avoir la preuve, non pas en creux, mais la preuve en relief ?
Alors, je ne pense pas pour la raison suivante. Je pense que cette nouvelle épistémologie, comme je vous l'ai dit, et elle ne s'applique pas encore dans tous les domaines, mais je prévois ou je postule son application, cette nouvelle épistémologie vous dit justement non, on a démontré pourquoi on ne saura jamais. Alors, si on a démontré...
Ce n'est pas une question de moyens. Donc.
Voilà, ce n'est pas une question de moyens. C'est ça qui est tout à fait nouveau. On a démontré pourquoi on ne connaîtra pas la position et la vitesse d'une particule au même moment. Je pense, même si ce n'est pas démontré de la même façon, qu'on peut quasiment démontrer que l'interaction de non-séparabilité, la fameuse interaction mystérieuse qui relie les deux particules, ce n'est pas un truc sur lequel on peut mettre le doigt, même dans un million d'années. On pourra, bien sûr, si nous changeons d'état, vous savez, si nous devenons des purs esprits comme dans les films de science-fiction, si vous avez lu de vue de Mila Odyssée de l'espace, si on devient des grands monolithes noirs et des purs esprits, oui, on aura certainement accès à l'interaction non séparable, mais ça, c'est de la science-fiction. Donc, je veux dire, tant que nous sommes des êtres dans le temps, l'espace, l'énergie et la matière, s'il y a vraiment un autre niveau de réalité dont nous ne pouvons que constater les effets. Alors, on pourra les constater de mieux en mieux, on pourra les traquer de mieux en mieux, on pourra dire « Ah oui, ici, là, c'est l'intervention de l'autre niveau de réalité. Poum, regardez, c'est là, voilà. La non-séparabilité, c'est un cas. Le Big Bang, c'est peut-être un autre cas. Il se peut que le phénomène de la conscience humaine relève aussi de cet autre cas. C'est-à-dire que la conscience est une idée très provocante, mais que la conscience soit effectivement n'est possible que sans le cerveau, que le cerveau soit en quelque sorte la condition du fait que nous soyons conscients, mais que le cerveau ne soit pas la cause de la conscience. Aujourd'hui, il n'y a aucune théorie scientifique, aucune, pouvant expliquer comment le cerveau causerait des états conscients de sensations, de douleur, de bonheur, de chaud, de froid. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on ne pourra pas le démontrer un jour. Attention, là, on n'est pas comme dans le principe d'incertitude. On a démontré qu'on ne saura jamais. Mais par contre, il y a des expériences sur le cerveau qui n'ont jamais été vulgarisées en langue française et que je vulgarise dans mon ouvrage, dans la partie qui s'appelle « Qui sommes-nous ?». Il y a des expériences sur le cerveau qui tentent à montrer que ce n'est pas si simple et qu'on ne peut sans doute pas interpréter la conscience humaine comme un phénomène qui serait uniquement, comme le disait Jean-Pierre Changeux, une production, vous savez la fameuse phrase de Changeux, « L'homme n'a plus rien à faire de l'esprit, il lui suffit d'être un homme neuronal ». Eh bien, cette idée qu'il y a une identité entre l'état neuronal, mes activités neuronales, et ce que je ressens, cette identité est parfaite, qu'il y a un recouvrement parfait, que si je connais l'état de mon cerveau, de votre cerveau, je connais l'état de votre conscience, est-ce que vous êtes en train de penser ? Il y a déjà des expériences qui détruisent, à mon avis, de façon définitive, cette conception-là. C'est pas pour autant...
Donc, qui sépare la conscience du cerveau.
Alors, c'est pas pour autant, attention, c'est pas pour autant qu'on va arriver dans un dualisme, c'est pas pour autant qu'on va dire que la conscience est séparée du cerveau. Là aussi, vous voyez, toujours démonstration par l'absurde. Toujours la puissance de ce raisonnement en creux. C'est-à-dire de dire, on peut démontrer de façon expérimentale, avec des expériences faites entre autres par Benjamin Libet à l'Université d'État de Californie, et qui montrent que le temps de la conscience n'est pas équivalent au temps des neurones, que vous pouvez connaître l'état neuronal d'un sujet, vous ne pouvez pas en déduire certaines choses sur sa conscience. C'est absolument fascinant. C'est des expériences qui montrent un décalage temporel, un peu, pour vous donner une idée, comme dans un accident de voiture. Sauf que là, c'est reproduit en laboratoire, pas l'accident de voiture, bien sûr, mais dans l'accident de voiture, vous avez l'impression que vous avez vécu 30 secondes l'accident, alors qu'en fait, il n'a duré que 3 secondes. Donc, vous avez un décalage temporel dont beaucoup de personnes ont témoigné, mais qui est subjectif. Libet a réussi à mettre en place un protocole expérimental où ce décalage, cette anomalie en quelque sorte, cette possibilité de la conscience de jouer avec le temps,
c'est lié à la transmission au cerveau ?
C'est assez complexe, mais avant, Libet donne une interprétation qui est extrêmement provocante, et pourtant, il n'est pas un dualiste au sens strict. Il rejette l'idée que l'âme existe et serait séparée du cerveau, hein, Libet. Mais il dit, voilà, quand vous êtes tout petit, vous avez appris à faire des références dans l'espace. Vous touchez un verre, voyez-vous, vous savez qu'il y a un verre en face de vous parce que vous le touchez. Hein, voyez. Donc le petit bébé, avec ses bras, il touche tout autour de lui. Pourquoi ? Parce qu'au début, tout ce qu'il a, c'est la transformée de Fourier dans son cerveau. C'est complètement faux de croire que nous voyons des choses devant nous. Nous voyons des choses dans notre cerveau. Nous voyons des traitements de signaux, de l'information dans notre cerveau. Mais depuis tout petit, nous avons appris en tendant les mains à faire un lien entre les choses que nous voyons dans notre cerveau et leur équivalent qui existe dans le monde réel. Donc nous faisons une référence dans l'espace. Et bien Libet dit, pourquoi êtes-vous choqué quand mon expérience démontre quelque chose d'incroyablement choquant pourtant, c'est qu'il y a une référence dans le temps. En gros, la conscience serait capable de repartir une demi-seconde dans le passé, d'après l'expérience de Libet, parce que, toujours d'après l'expérience de Libet, tout ce dont nous prenons conscience, il faut une demi-seconde pour en être conscient. Tous ceux dont nous prenons conscience, et l'expérience Libet prouve de façon irréfutable, je n'ai pas le temps de démontrer comment, mais je vous donne la conclusion, tout ce que nous prenons conscience de quelque chose, il nous faut une demi-seconde pour en être conscient. Mais, quand vous êtes piqué ou quand n'importe quoi se produit, ça se produit au moment où vous en prenez conscience, au moment d'être piqué. Donc, dit Libet, il faut à chaque moment faire une référence dans le passé. Il faut que la conscience remonte le temps d'une demi-seconde pour synchroniser l'état de votre conscience avec votre perception. Ça paraît très compliqué, mais la conclusion veut dire que la conscience ne serait pas totalement localisée dans l'espace-temps, et bingo, on retrouve toujours le même truc, on retrouve toujours l'autre niveau de réalité. La conscience ne serait pas totalement localisée dans l'espace-temps, puisque la conscience serait capable de remonter le temps au moins d'une demi-seconde. Alors vous voyez, l'expérience de Libet est très très discutée, mais au moins la conclusion irréfutable, c'est que Quand vous prenez conscience de quelque chose, il vous a fallu une demi-seconde pour en prendre conscience, alors que notre expérience quotidienne vous montre que quand on vous pique avec une aiguille, vous en prenez conscience tout de suite. Donc, il y a un problème fondamental.
Le tout de suite est trompeur.
Le tout de suite serait trompeur et il serait dû à ce mystérieux phénomène de référence dans le temps qui, dit Libet, n'est pas plus mystérieux que la référence dans l'espace, selon lui, et qu'il correspond, pour l'expliquer, à un cachet de la poste. Quand vous avez un tampon sur la lettre, vous regardez la lettre, vous dites « Ah, cette lettre a été postée le 25 février », même si vous la regardez le 25 juin. Donc, le cachet de la poste serait effectivement la preuve, en quelque sorte, du moment où c'est produit l'événement, et la conscience serait capable de remonter au 25 février. Et la preuve de cela, pour vous en dire un mot, parce que les auditeurs vont se demander comment c'est possible, évidemment, je peux leur dire de lire mon livre, mais sans lire mon livre, je peux déjà vous donner une clé fondamentale. Le cachet de la poste ici est joué par le rôle de ce qu'on appelle le potentiel évoqué, c'est-à-dire le potentiel d'influx nerveux qui, quand vous êtes piqué au doigt, arrive au cerveau. Il joue le rôle du cachet de la poste. Après, le cerveau, pendant une demi-seconde, compute. Au bout d'une demi-seconde, bingo! La conscience prend conscience de cela.
J'ai été piqué.
Voilà. Et alors, à ce moment-là, il faut qu'elle remonte dans le passé. Elle dit, tiens, ça a été fait quand, ce truc-là? Ah, tiens, cachet de la poste, c'était le 25 avril. On remonte au 25 avril. Et comment on peut le savoir? Parce que Libet a piqué des gens le cerveau ouvert. Dans des expériences de chirurgie incroyablement lourdes, quand il fallait opérer des tumeurs au cerveau, il a réveillé les gens pendant l'opération et il les a piqués au même endroit, c'est à l'endroit qui correspond au bout du doigt. Quand on vous pique le bout du doigt, vous sentez une piqûre au bout du doigt, mais quand on vous pique la zone correspondant au bout du doigt dans le cerveau, la zone où arrive le fameux potentiel évoqué, on vous pique au cerveau, qu'est-ce que vous sentez? Une piqûre au bout du doigt, bien sûr, hein? Mais quand est-ce que le sujet sent la piqûre? Eh bien, il la sent au bout d'une demi-seconde. C'est-à-dire que quand il n'y a pas le potentiel évoqué, quand il n'y a pas le fameux cachet de la poste qui vous arrive, hein, et ben vous ne pouvez plus repartir dans le passé. Parce que vous recevez une lettre blanche, une lettre sans cachet de la poste. Et ben vous ne pouvez pas remonter, vous ne pouvez pas savoir quand est-ce qu'elle a été postée. Et ben avec le cerveau, c'est pareil. On peut montrer que le cachet de la poste, c'est le potentiel évoqué, que la conscience met une demi-seconde pour être consciente de quelque chose, mais que, pourtant, nous sommes, nous, conscients, nous sommes en synchrone avec les événements, donc la conscience devrait remonter le temps. Donc, si elle remonte le temps, c'est qu'elle n'est pas totalement dans le temps. Si elle n'est pas totalement dans le temps, c'est que, ben voilà, on retrouve cette idée à d'autres niveaux de réalité.
Jean Stone, depuis le début, avec la matière, l'univers, les neurosciences, est-ce que vous ne remettez pas en cause cette loi de l'espace-temps, ou du moins cette loi indépassable? Vous nous citez Einstein, mais n'est-ce pas la preuve que vous le dépassez largement?
Non, il y a deux choses. C'est-à-dire que dans notre niveau de réalité, on ne peut pas aller plus vite que vitesse de la lumière. Dans notre niveau de réalité, la structure de l'espace-temps empêche d'aller plus vite que vitesse de la lumière pour une raison très simple. C'est que quand vous accélérez, il y a une déformation de l'espace et du temps autour de vous. Et arrivé à vitesse de la lumière, si vous voulez, la déformation de l'espace et du temps est telle que la structure même de l'espace-temps vous empêche d'aller, aussi je n'ai pas le temps de vous démontrer, mais c'est expliqué dans l'ouvrage, une vitesse, c'est en fait une certaine distance parcourue dans un certain temps. Donc si le temps et la distance eux-mêmes se déforment autour de vous, eh ben, vous avez beau mettre de l'énergie dans votre moteur, vous ne pourrez pas dépasser parce qu'en quelque sorte, il y a une déformation qui est proportionnelle à votre accélération et vous serez toujours à 300 000 km/s quoi qu'il arrive. Donc, dans notre espace-temps, il n'y a pas de doute, on ne dépasse pas, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, il n'y a pas de doute. Maintenant, la grande question, c'était de dire, oui, mais s'il y avait un autre niveau de réalité qui intervenait causalement, ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, au niveau de la neurologie comme au niveau de la mécanique quantique, qui intervient causalement dans notre niveau de réalité, ce n'est pas possible, il ne pourrait pas le faire sans violer les fameuses lois de conservation du mouvement. Et ça, ce serait extrêmement provocant, les lois de conservation de l'énergie, pardon, pas du mouvement, de l'énergie. Les lois fondamentales de l'univers, ce serait de dire, voilà, il y aurait un truc magique qui se produirait. Eh ben non. Là où ça devient vraiment intéressant, et c'est lié aussi à mon avis à la phrase de Eddington sur 1927 que je citais, c'est que la mécanique quantique permet, il ne faut pas la mettre à toutes les sauces, mais là on est obligé de reconnaître que la mécanique quantique permet, sans violer en aucune façon les lois de l'univers, et entre autres les lois de conservation d'énergie, la mécanique quantique permet, à cause du principe d'incertitude, à certains événements, certaines réorganisations de se produire. Et pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, je vous ai dit que les expériences de Libet dont je parlais tout à l'heure ne prouvent pas le dualisme, ne prouvent pas qu'il existe une conscience totalement indépendante du cerveau, mais ça donne, à mon avis, un très 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 fort poids à cette idée. Mais un grand prix Nobel de neurologie, prix Nobel de médecine, grand neurologue du XXe siècle, Sir John Eccles, a développé un modèle basé sur ces expériences, dans lequel la conscience scanne en permanence le cerveau. Dans son modèle qui, lui, est totalement dualiste, la conscience scanne en permanence l'état du cerveau et ça prend la fameuse demi-seconde, ce scannage, voyez-vous. La conscience est en train de scanner les états des neurones du cerveau, ça prend une demi-seconde pour qu'elle soit consciente du truc. Mais comme elle n'est pas dans le temps et dans l'espace, eh ben bingo, elle est capable, elle, de synchroniser l'événement. Et comment, quand on dit à Eccles, oui, mais comment est-ce que la conscience peut interagir avec le cerveau? Eh bien, tenez-vous bien, cette grande critique du dualisme, c'est-à-dire l'idée que si la conscience agit sur la matière, elle violerait les lois de conservation de l'énergie et donc toute la science sous sa forme rationnelle, et donc ce serait évidemment une idée inacceptable, eh bien, ce n'est plus une idée inacceptable depuis 1992, car on ne le dit pas, mais Sir John Eccles a publié, et pas n'importe où, à l'Académie des sciences américaines, donc dans les proceedings de l'Académie des sciences américaines, un article avec un physicien quantique de Max Planck Institute allemand à Darmstadt, qui s'appelle Beck. Et Beck et Eccles ont démontré un modèle d'interaction au niveau des synapses, expliquant un traitement quantique, si vous voulez, qui montre que le déchargement d'une synapse, vous savez, dans les neurones, la synapse, c'est ce qui permet à l'influx nerveux de passer d'un neurone à l'autre. Hein. Eh bien, cette explosion, en quelque sorte, quand une synapse se décharge, c'est lié à des tout petits vésicules qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 18 grammes. Et c'est quelque chose qui est toujours au seuil. C'est-à-dire qu'il en faut, à 53%, ça marche, à 47% de vésicules qui déchargent, ça bloque. Donc, le fait qu'un ou deux vésicules puissent, poum, basculer, eh bien, ça donnerait la possibilité à la décharge de se produire. Et Eccles et Beck ont montré, le papier est montré, à mon avis, il n'a jamais été critiqué dans une revue à référer, il a été publié et n'a pas été critiqué, que c'est possible qu'un esprit immatériel agisse en changeant les champs de probabilité au niveau quantique sur la matière, sans aucune violation des lois de l'énergie et de la matière. Mais attention, ça ne prouve absolument pas que l'esprit existe. Absolument pas. Ça vous donne un modèle théoriquement possible pour le dualisme. Mais ça, ce que plus personne ne peut dire aujourd'hui, c'est que le dualisme est anti-scientifique et beaucoup de neurologues et beaucoup de gens ne sont pas prêts à le reconnaître, à mon avis, à tort. Plus personne ne peut le dire depuis 1992 et la publication de ce papier de Beck et Eccles, mais ça ne prouve pas que le dualisme existe. Simplement, je dis, attention, regardez bien les expériences de Libet, ça va très très loin et ça pose de très très gros problèmes aux interprétations matérialistes qui voudraient que la conscience soit produite par le cerveau.
Jean Stone, on se retrouve dans quelques instants.
Avec l'émission Les allusions historiques, amusez-vous à découvrir les bons mots et les expressions passées dans la langue française. L'historien Jean-Claude Bologne vous livre les détails de l'ère des lampions, de l'œuf de Christophe Colomb et bien d'autres anecdotes. Les allusions historiques, une rubrique de l'émission Un jour dans l'histoire, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Au fil des pages consacrées à l'ouvrage de Jean Stone, un ouvrage intitulé « Notre existence a-t-elle un sens ?», une enquête scientifique et philosophique aux presses de la Renaissance. Jean Stone, je rappelle que vous êtes diplômé en paléontologie, mathématiques, informatique, gestion, sciences politiques et économiques et que vous enseignez la philosophie des sciences dans le MBA du groupe HEC. Cet ouvrage représente quelque chose dans votre vie. On l'a souligné aussi au début de cette émission puisque c'est l'aboutissement de plusieurs dizaines d'années de recherches, de rencontres aussi, lors desquelles vous avez pu élaborer toute cette vision que vous nous faites partager et qui se résume, si je puis dire, hein, j'essaie de résumer de manière extrêmement synthétique, au fait qu'il existe un autre niveau de réalité en dehors de l'espace et du temps, que l'on sait, c'est ce que vous avez dit à plusieurs reprises, que l'on ne sera jamais.
Mmh.
Cet autre niveau de réalité existe.
On ne dévoilera pas en totalité.
On ne dévoilera pas en totalité, mais ce monde, et vous êtes revenu au mythe de la caverne de Platon, ce monde nous est intelligible, nous est connu partiellement.
Par ses conséquences.
Par ses conséquences, monde. Mais pas par ses causes. Voilà. Mais on a un modèle peut-être théorique d'appréhension de cet autre niveau de réalité. J'aimerais qu'on aborde, si vous le voulez bien, un aspect qui, évidemment, suscite pas mal de controverses, même dans l'opinion publique, sur les questions liées à l'évolution de l'homme. Qui sommes-nous? Puisque c'est l'une de vos interrogations fondamentales. Qui sommes-nous? Et là, peut-être faut-il rétablir, purger les concepts, si je puis dire.
Oui, absolument. Je pense que c'est-à-dire quelque chose qui a toujours été très clair jusqu'à ce que les problèmes du intelligent design américain viennent brouiller tout ceci. Effectivement, il y a...
Donc le dessin intelligent aux États-Unis.
Oui, le dessin intelligent, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'idée d'une évolution, c'est que nous avons des ancêtres communs avec tous les autres êtres vivants, et c'est pour moi une certitude scientifique évidente qu'on ne peut pas remettre en cause, le fait que la Terre tourne autour du Soleil, par exemple. Mais si la Terre tourne autour du Soleil, eh bien, elle peut tourner de façon newtonienne ou einsteinienne, vous avez beaucoup d'explications à la façon dont la Terre tourne autour du Soleil. De la même façon, eh bien, l'évolution peut être darwinienne, elle peut être lamarckienne, elle peut être théardienne. Vous avez d'autres explications possibles à l'évolution que, bien sûr, la théorie néo-darwinienne. Or, ce qu'il s'est passé, entre autres pour des raisons linguistiques, en anglais on parle de Darwinian Evolution, pour désigner à la fois la théorie darwinienne et le fait que nous avons des ancêtres communs, le fait de l'évolution. Ce qui inclut induit une grande confusion. C'est un peu comme si vous disiez la Terre tourne de façon newtonienne, donc vous n'auriez pas le droit de mettre en cause le newtonisme, ou alors vous mettrait en cause le fait que la Terre tourne, voyez-vous. Et ça, c'est un vrai problème, parce que d'un côté, il y a des créationnistes qui se définissent donc comme des gens qui croient à des créations séparées des êtres vivants, ce qui est évidemment une absurdité totale. Et d'un autre côté, on voudrait nous faire croire qu'il n'y a que des darwiniens si, effectivement, on est contre le créationnisme, alors on doit avaler l'évolution et on doit avaler le darwinisme en même temps.
On a confondu évolutionnisme et darwinisme.
Voilà, et ça, c'est, je pense, quelque chose qui, heureusement, en France, était jusque-là très bien connu, parce qu'on avait... Nous sommes le pays de Lamarck et de Teilhard de Chardin. Mais depuis quelques années, on commence à essayer de coller l'étiquette néo-créationniste, y compris sur des gens comme moi ou sur des gens comme Anne d'Ambricourt au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui sont des néo-teillardiens, ce qui est évidemment une malhonnêteté intellectuelle gigantesque, puisque quelqu'un comme Teilhard de Chardin, toute sa vie, s'est battu pour faire accroître l'évolution contre le créationnisme qui, à l'époque, était encore la pensée dominante de l'Église catholique de son temps, c'est-à-dire, encore une fois, la création séparée des êtres vivants, ce qui est, encore une fois, je le répète, une absurdité. Donc, si vous voulez, il faut bien clarifier les concepts d'abord. Une fois qu'on a clarifié ces concepts et qu'on a vu que l'évolution est un fait, il s'agit de savoir si cette évolution s'est produite uniquement par des facteurs darwiniens, c'est-à-dire des mutations au hasard trayées par la sélection naturelle, car c'est ça l'essence du darwinisme, même s'il y a beaucoup d'autres améliorations dans le néo-darwinisme. L'essence du darwinisme, ça reste un processus d'essais et d'erreurs. On appelle cela des algorithmes génétiques, qui sont d'ailleurs là pour simuler justement l'évolution de la vie telle qu'on pense qu'elle s'est produite par des mécanismes darwiniens. Or, il y a toute une série de raisons à la fois d'ordre génétique, d'ordre mathématique et théorique, d'ordre paléontologique, pour l'essentiel arrivent à la même conclusion: les processus de type darwinien existent, ils expliquent beaucoup de choses, ils ont un pouvoir explicatif très profond, mais ils ne sont certainement pas capables d'expliquer l'évolution dans son ensemble. Pire encore, il ne s'agit pas seulement de dire le fameux, vous savez, mystère, on ne sait pas, c'est un mystère. Non, 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 non. On a des indices très puissants du fait qu'il y a quelque chose d'autre dans l'évolution. Et ce quelque chose d'autre va nous ramener à quoi ? À l'idée d'une évolution canalisée, en quelque sorte, à l'idée, j'oserais dire, de forme archétypale, si vous voulez. Et là, je cite des gens tout à fait au sommet, en quelque sorte, de la science actuelle, qui ne sont pas critiqués du tout. Parce qu'il y a des gens, on peut critiquer telle ou telle personne. Mais par exemple, Simon Conway-Morris. Simon Conway-Morris, il est peu connu en France, contrairement à Stéphane Jay Gould, dont tout le monde parle, qui était le grand paléontologiste de Harvard. Simon Conway-Morris, c'est le grand paléontologiste de Cambridge, l'un des plus grands paléontologistes vivants, et Gould lui a rendu hommage, ce qui est assez amusant, comme il est très anti-Gould, d'ailleurs, dans un de ses ouvrages. Eh bien, quelqu'un comme Simon Conway-Morris, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit que l'évolution, en quelque sorte, est canalisée comme si vous les mettez de l'eau au sommet d'une montagne. Vous voyez, vous avez une montagne, vous versez de l'eau, il y a des ravins. Donc l'eau ne peut couler que là où il y a des ravins. Elle ne va pas couler là où il y a des pics. Elle va couler là où il y a des creux. Donc, en quelque sorte, il y a du hasard, parce que l'eau peut couler, faire des tourbillons, aller dans tous les sens, mais elle ne peut que s'écouler que dans la structure du paysage qui préexiste. Et ce que dit Conway-Morris, et je vais le citer parce que c'est quand même extraordinaire, il dit « Le consensus actuel est que chaque espèce est le résultat d'un processus dû au hasard. » Le consensus actuel donc dit que chaque espèce est le résultat d'un processus dû au hasard et qu'il y a un grand nombre de possibilités, probablement bien plus que le nombre de planètes habitables dans la galaxie. Selon une telle conception, la conception darwinienne classique, il est très improbable, je cite toujours, que les habitants d'une planète puissent ressembler à ceux d'une autre planète. Mais lui, il essaie de montrer qu'il y a des convergences. Il appelle ça la convergence évolutionniste. Qu'il y a des convergences sur Terre, ici et maintenant, entre des êtres très différents. Et que cette convergence montre qu'un certain nombre de choses dans l'évolution sont canalisées. Et il dit cette convergence évolutionniste indique au contraire que le nombre d'alternatives est strictement limité. Si cela est correct, cela suggère que la façon dont l'évolution navigue vers une solution fonctionnelle particulière, c'est un être vivant stable, c'est vous, c'est un chien, c'est un etc., peut fournir une base d'une théorie plus générale de la biologie. Et il n'hésite pas à dire que son opinion est qu'un tel programme de recherche pourrait révéler un niveau plus profond de la biologie, dans lequel l'évolution darwinienne resterait un concept central, mais où les formes fonctionnelles possibles sont prédéterminés depuis le Big Bang. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire qu'un des plus grands paléontologistes actuels dit que les formes fonctionnelles possibles, c'est-à-dire les êtres, la forme félin, la forme canidée, la forme primate, les grandes formes d'êtres vivants, sont prédéterminées depuis le Big Bang, ben, ça veut dire qu'il existe quoi ? Ben, des archétypes platoniciens, c'est-à-dire des formes platoniciennes, et bingo ! Même dans ce domaine où, je dirais, la pensée platonicienne, la pensée d'un autre niveau de réalité est peut-être, et je l'admets, la moins solide, on a déjà des indices très forts que là aussi, il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui échappe, c'est ces formes, ces archétypes platoniciens, c'est cette espèce de formatage du paysage, en quelque sorte, qui préexisterait à l'évolution et qui préexisterait même au Big Bang, tel que Conway Morris se développe dans son ouvrage qui s'appelle « Life Solution », la solution de la vie, mais qui malheureusement n'existe pas en français.
Alors Jean Stone, là, on a touché un point névralgique, un point central, le fait que Darwin avait perçu ces aspects de l'engendrement des espèces, de leur adaptation,
d'évolution,
qui sont indéniables.
Absolument.
Mais sur l'explication générale des choses, le fait qu'il y ait une programmation, en quelque sorte, de toutes ces espèces et qu'elles évoluent chacune à leur rythme, ce sont les fameuses structures du paysage, l'eau s'écoule par les voies
voilà.
par lesquelles elle devait s'écouler.
Oui. Attention, oui, allez-y, oui.
Ça change quand même complètement la donne.
Oui, mais attention de ne pas parler directement de programmation. Ce serait peut-être un peu trop fort. On peut dire au plan philosophique, encore une fois, il faut bien séparer, hein, comme on l'avait dit au début, ce qui est de l'ordre de l'interprétation philosophico-métaphysique de la science.
Programmation, vous craignez qu'on tombe dans le créationnisme.
Bah, c'est pas le créationnisme, parce que c'est évolutionniste. Mais c'est justement, il ne faut pas faire l'erreur. Mais c'est l'idée de dire qu'effectivement, il y a clairement un processus programmé dans l'évolution. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. On peut dire simplement qu'il y a une structure sous-jacente à l'évolution, qu'on peut opposer une évolution par sélection naturelle, ce qui est le darwinisme, à une évolution par loi naturelle. Et l'un de ceux qui a le mieux démontré est Michael Denton, dont l'ouvrage, lui, est traduit en français, qui s'appelle « L'évolution a-t-elle un sens ?» Michael Denton vous dit, en quelque sorte, de même que les cristaux de neige ont toujours le même nombre de branches, voyez-vous. Il y a toujours un même nombre de branches aux cristaux de neige parce que les lois de la nature forment des cristaux. On pourrait penser que les grandes formes d'êtres vivants sont inscrites dans les lois de la nature. Et c'est ça, cette pensée révolutionnaire, que d'imaginer effectivement à la place d'une évolution par sélection naturelle, qui certes existe au moins de façon locale, une évolution par loi de la nature et non pas une évolution par sélection naturelle.
Darwin
et...
ne l'avait pas conçu d'une manière ou d'une autre, imaginé.
Non, vraiment Darwin, c'était, il disait lui-même que la sélection était...
Est-ce qu'il avait perçu les limites de son système aussi?
Oui, hein, mais il avait quand même dit que la sélection était sa divinité et que en fait la sélection devait pouvoir expliquer ce genre de choses. Alors qu'aujourd'hui, voyez-vous, même Denton par exemple a publié un article dans un journal de à référé qui s'appelle « Le repliement des protéines en tant que forme platonique, un nouveau support pour une vision prédominante darwinienne de l'évolution par loi naturelle ». Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on retrouve là aussi cette idée du platonisme, c'est-à-dire que c'est pas du tout, évidemment, c'est le contraire même du créationnisme, puisque ici, on n'est pas du tout dans l'idée d'une création séparée des êtres vivants, on est dans l'idée au contraire que les lois de la nature et que la préexistence des archétypes permet justement à cette évolution, comme un grand fleuve de la vie, de s'écouler dans certaines directions, mais évidemment c'est une vision qui rejoint certaines intuitions de quelqu'un comme Pierre Teilhard de Chardin, pour qui il est évident que l'évolution était un fait et pour qui il était évident aussi qu'elle était canalisée vers plus de conscience, qu'elle n'était pas due entièrement au hasard.
En page, c'est page 301, La figure 11-13, l'évolution depuis les reptiles jusqu'aux mammifères était-elle orientée? J'aimerais que vous nous parliez de cette fameuse mandibule. Un exemple concret.
Ça, c'est l'exemple effectivement qui va le plus dans cette idée de programmation, quand vous avez mentionné le mot programmation. Mais encore une fois, je ne prends pas ce mot dans mon ouvrage, je pense qu'il est un peu trop fort.
On a compris toute la réserve.
Voilà, je dis simplement, parce que c'est un sujet extrêmement polémique et donc il faut être extrêmement prudent aussi là-dessus. Ce que j'ai essayé de montrer dans mon ouvrage de façon très claire et nette, c'est à la fois qu'il y a une immense diversité de pensées sur la question de évolution, et que d'un autre côté, il y a toute une série de faits, dont celui dont je vais en parler maintenant, qui vont dans le sens d'une évolution qui n'est pas entièrement due au hasard, sans qu'on puisse aller jusqu'à dire que tout est programmé. Mais il y a quand même cette idée, effectivement, du passage des reptiles qui a été très bien étudié par un des très grands paléontologistes français et zoologues, qui est Pierre-Paul Grasset. Et donc, si vous voulez, il y a dans la mandibule des reptiles, il y a trois os, et deux de ces os vont disparaître, et chez les mammifères, ils vont se mettre à former la structure de l'oreille interne, ce qui nous permet d'entendre mieux.
C'est prodigieux.
Donc, on a une preuve magnifique d'évolution. Voilà une façon de blackbouler le créationnisme, si besoin était. Et malheureusement, je crois qu'effectivement, il y a de plus en plus d'offensives créationnistes. Donc, il faut se battre, heureusement pas en France, mais dans d'autres pays, pour démontrer l'évolution. Donc, voilà, oui, nous avons, nous, des reptiles dans nos ancêtres. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé des reptiles qu'on appelle des reptiles thériodontes, qui sont des reptiles intermédiaires, qui ont à la fois une articulation de la mâchoire comme les reptiles classiques, avec les trois os, mais qui ont déjà développé en haut de leur mâchoire, à l'arrière, l'os de la mâchoire s'articule directement sur le crâne, comme chez les mammifères. C'est-à-dire qu'en fait, ces reptiles ont deux articulations, une qui est reptilienne et une qui est déjà de type mammalienne. Plus tard, les mammifères vont garder l'articulation de type mammalienne et les os en question vont se disparaître de la mâchoire et devenir des os de l'oreille interne. Maintenant, grande et grave question, à quoi sert cette double mâchoire chez les reptiles ? Réponse a priori terrifiante pour le darwinisme, à rien du tout. C'est-à-dire que si vous cassez votre mâchoire, que vous ayez une ou deux articulations, à part si vous faites une opération chirurgicale extrêmement complexe, vous ne pourrez trouver aucun cas dans la nature où vous pouvez casser l'articulation du bas sans casser celle du haut. En d'autres termes, pour que pendant des millions d'années, on parle de millions d'années, il y ait eu une sélection naturelle qui ait sélectionné le caractère double mâchoire en le perfectionnant, alors qu'a priori il ne sert à rien, eh bien Grasset disait de la façon la plus nette que pour lui, c'était parce que, en quelque sorte, le type, c'était la fameuse canalisation dont nous parlions, le type mammifère devait se réaliser. Pour que le type mammifère se réalise, il fallait qu'un certain nombre de modifications se produisent et que ces modifications ne peuvent pas avoir d'utilité pour l'organisme et pourtant elles se sont accumulées pendant un certain nombre de millions d'années. Nous arrivons donc à cette idée extrêmement provocante que d'une certaine façon, les mammifères étaient attendus, qu'ils formaient en quelque sorte la potentialité évolutive des reptiles. Et donc, Grasset, bien que ça puisse paraître une scandaleuse conception finaliste, encore une fois, un des grands zoologistes du XXe siècle, dit que quand on regarde en vérité et en complète objectivité les variations des thériodontes et des mammifères primitifs, elles n'ont rien d'aléatoire, elles s'additionnent, s'ajustent au cours du temps sans avoir la moindre apparence pathologique. Et aucun fait caractéristique de cette mammalisation, donc du fait qu'il y a des mammifères, n'exige pour être expliqué un recours à la sélection. Et c'est ça le point clé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune nécessité, aucune explication en termes de sélection. Et pourtant, quelque chose pousse pendant des millions d'années. Aucun autre reptile n'a développé cette caractéristique, ce qui est bien la preuve qu'elle n'est pas utile. Et pourquoi les thériodontes avaient cette mâchoire ? La seule explication, c'était pour que nous ayons une meilleure audition. Donc c'est effectivement, a priori, pour l'instant, il faut être prudent, mais une explication qui pourrait être de type finaliste.
Jean Stone, on se reportera bien sûr pour le détail de cet exemple à votre ouvrage qui finalement permet de récuser à la fois le darwinisme et le créationnisme d'une certaine façon.
Totalement.
Vous visez les deux tableaux.
Il faut absolument inscrire l'insuffisance du darwinisme d'un côté et le rejet du créationnisme. Et c'est quelque chose qui est encore très mal compris en France et surtout qu'un certain nombre, je dirais, de gens, d'activistes du darwinisme essaient d'étouffer à tout prix. C'est-à-dire, c'est vraiment leur discours, c'est nous ou le créationnisme ou le néo-créationnisme ou ce que vous voulez, mais ils n'admettent pas le troisième terme.
Il nous reste quelques minutes. Devait se réaliser. Est-ce que tout n'est pas contenu dans ce devait ? Est-ce qu'on peut aborder l'aspect un peu théologique, comment vous relier, puisque le titre de votre ouvrage, c'est quand même « Notre existence a-t-elle un sens ?» sur ce fameux sens. Quelle est votre appréhension de ce
phénomène ? Oui, alors effectivement, ce que l'on peut dire au plan strictement scientifique, c'est une seule chose que je prétends qu'on peut démontrer, comme mon ouvrage démontre, c'est que notre univers ne s'explique pas par lui-même, qu'il y a dans toute une série de domaines la nécessité de faire appel à un autre niveau de réalité qui n'est pas dans le temps, dans l'espace, dans l'énergie, dans la matière. On l'a dit en mathématiques, on l'a dit en neurosciences, on l'a dit en astrophysique, on l'a dit en physique quantique, c'est aveuglant. Ça saute aux yeux quand on a la possibilité, comme je l'ai fait, de mettre tous les éléments ensemble dans une synthèse. D'accord ? Donc ça, c'est le point scientifique.
Synthèse inédite.
Voilà, c'est, je le crois, en tout cas en langue française, j'en suis certain. Maintenant, ensuite, le deuxième point, qui n'est pas totalement prouvé, mais qui est suggéré, mais on ne peut pas dire qu'il est prouvé si on veut être rigoureux au plan scientifique, c'est le contact possible, au moins dans le domaine de la notion de vérité en mathématiques, domaine extrêmement technique, vous le reconnaîtrez, le contact possible entre l'esprit humain et ce fameux autre niveau de réalité platonicien à travers le témoignage d'un grand nombre de mathématiciens. Voilà les deux choses que l'on peut dire scientifiquement. Le premier point est prouvé, le deuxième est très probable mais pas prouvé. D'accord ? Maintenant, comment on peut passer de là à une vision, je dirais, à une conclusion qui, elle, est de nature métaphysique, évidemment ? Eh bien, de la façon suivante. Si on regarde autour de nous, les grandes traditions de l'humanité, et pas seulement les traditions monothéistes, disent, regardez, le Bouddha dit, il y a un non-né, non-devenu, non-créé, sinon il n'y aurait pas de sortie possible hors du temps de devenir de la création. Le Tao dit, il y a un Tao sans nom, sinon il n'y aurait pas, il y a le Tao avec nom qui est la mère de toute chose, mais le Tao sans nom qui est le père de toute chose. Donc là aussi, voyez-vous, deux niveaux de réalité. Et le Tao sans nom est totalement ineffable, un peu comme le réel voilé dont on parlait tout à l'heure en physique. Bref, toutes les traditions disent, il y a deux niveaux de réalité. Et il y a un contact, elles le disent aussi, entre l'homme et cet autre niveau de réalité. L'homme peut recevoir, et encore une fois, le Tao et le Bouddha le disent ou l'hindouisme, c'est pas seulement monothéiste comme idée. Il y a un contact possible entre l'esprit de l'homme et cet autre niveau de réalité. Les grandes traditions disent ça, et essentiellement ça. C'est leur point d'accord. Bon. Eh bien, ces deux idées maîtresses, aujourd'hui, qui pouvaient paraître absurdes, ridicules, insensées, j'insiste énormément, parce que sinon les philosophes disent « oui, mais ça ne change rien, on a toujours pensé ça ». Oui, mais la science avait a priori presque exclu, presque dissous la possibilité d'une telle conception du monde. Eh bien aujourd'hui, c'est le contraire. La science rend éminemment crédible ces deux grandes idées. Un autre niveau de réalité, à mon avis, c'est même prouvé. Alors, ça ne veut pas dire que cet autre niveau de réalité, c'est le nirvana de Bouddha ou le paradis chrétien. Attention,
bien sûr.
Soyons très rigoureux. Mais l'idée de base est similaire. C'est-à-dire qu'il y a un autre niveau de réalité, il y a un contact entre l'esprit de l'homme, cet autre niveau de réalité. Et la conclusion ultime, la plus provocante que je dirais pour les monothéistes, cette fois-ci dans un cadre monothéiste, l'idée, si vous voulez, que les grandes religions sont des inventions humaines. Évidemment, quand vous lisez le Coran ou quand vous lisez la Bible, vous voyez que c'est des religions du désert où on parle du sable, bon, il y a un lien avec les circonstances humaines où ces religions sont apparues. Mais est-ce qu'elles ne sont que des inventions humaines, des adaptations humaines, des créations humaines, ou est-ce qu'elles sont quelque chose d'humain, mais qui est basé sur un message, sur quelque chose qui n'est pas d'origine humaine? Cette idée, qui est l'idée que pendant 2000 ans et plus, toutes les grandes religions ont affirmée, est tellement absurde aujourd'hui que vous ne trouverez quasiment pas un philosophe moderne pour la défendre. Les philosophes, mon ami André Comte-Sponville, dit lui-même, les religions sont immanentes. Et je lui dis, André, qu'est-ce que tu en sais? Les religions sont immanentes. Et non, on peut tout à fait imaginer, je ne dis pas prouver, bien entendu, mais imaginer dans le modèle conceptuel que je vous ai donné, qu'en fait, quelque chose dans les grandes traditions humaines, par rêve, révélation, intuition, n'est pas d'origine humaine. Exactement, exactement, comme les grands mathématiciens disent qu'ils ont perçu, après un long travail, des vérités qui n'étaient pas des créations de leur propre cerveau, mais qui préexistaient. Donc vous voyez là, pour être provocant et pour terminer, on peut dire en fait que cela donne une crédibilité nouvelle aux affirmations des grandes traditions, y compris à l'idée même de révélation, sans évidemment aller jusqu'à la prouver en aucune façon.
La révélation et vos révélations dans Notre existence a-t-elle un sens ? Merci Jean Stone, une enquête scientifique et philosophique aux presses de la Renaissance.